Radio Okapi.
Okapi.
Okapi Service.
Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Quelles sont les raisons à la base de la création des Nations Unies? On en parle aujourd'hui avec Joseph Potopoto, spécialiste des programmes communication et information au bureau de l'UNESCO à Kinshasa. Joseph Potopoto, bonjour.
Bonjour, Jody Kachamba.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien à l'occasion des 75 ans des Nations Unies. Merci à vous tous qui nous suivez en ce moment à travers la République et même en dehors de nos frontières sur www.radiookapi.net. Vous voulez participer à cette émission de la vie au quotidien? Eh bien, composez le 081-890-63-94. Bien, ne nous appelez pas pour l'instant. Écrivez-nous plutôt à service@radiookapi.net. Postez également vos préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Tati Mapoukou à la réalisation, Marcel Ngomumba Lakeba sur la coordination de cette émission qui présente Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki à la technique Polydor Bansunga. Merci de votre fidélité.
À l'occasion des 75 ans des Nations Unies, Radio Okapi vous propose durant 90 jours des programmes variés. Suivez sur nos antennes l'impact des activités des agences onusiennes à travers le monde et en République démocratique du Congo. Ensemble avec la famille de l'ONU.
Radio Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Aujourd'hui, nous parlons des raisons de la création des Nations Unies. Vous savez, le 24 octobre prochain, l'Organisation des Nations Unies va totaliser 75 ans d'existence. Elle a été créée en 1945, quelques mois après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en remplacement de la Société des Nations. La Charte des Nations Unies adoptée le 26 juin 1945 est entrée officiellement en vigueur le 24 octobre 1945. Cependant, bon nombre de personnes s'interrogent souvent sur les raisons ou les motifs qui ont concouru à la création de cette institution internationale. Eh bien, nous aurons des réponses tout à l'heure avec nos invités. Nous allons accueillir premièrement Monsieur Joseph Potopoto, spécialiste des programmes communication et information au bureau de l'UNESCO à Kinshasa. Joseph Potopoto, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody Kachama.
Bien, la première question est de savoir, c'est quoi les Nations Unies?
Bien, l'Organisation des Nations Unies, comme cela se comprend, c'est toutes les nations du monde éprises de paix et de justice et qui ont accepté de fédérer autour d'une grande alliance, et cette alliance que nous appelons ONU, et une organisation, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a été créée pour répondre à une conviction forte des États qui étaient marqués par deux conflits mondiaux en moins d'une génération, c'est-à-dire entre 1914-18 et entre 40-45. Donc les Nations Unies sont nées donc de cette conviction à répondre à ces besoins de la paix d'abord, premièrement, et de la coopération ensuite pour construire un monde meilleur pour tout le monde.
Bien, donc c'est dans l'objectif de travailler pour la paix dans le monde. Alors, quel était, pouvez-vous nous rappeler le contexte dans lequel cette organisation a vu le jour?
Bien, il faudra dire que l'organisation a vu le jour après le deux conflits mondiaux, la guerre de 1914 et de 1940-45, à remplacement de la Société des Nations. Les Nations Unies, en tout cas, ce que j'aimerais que les auditeurs retiennent le plus, c'est une organisation qui est née pour promouvoir la culture de la paix. Une culture qui consiste en des valeurs, en des attitudes, des comportements qui à la fois reflètent et favorisent la convivialité entre les peuples, le partage fondé sur le principe de la liberté, sur le principe de la justice, de la démocratie, sur les principes du respect du droit de l'homme, de la tolérance, de la solidarité, et qui rejette aussi les violences et qui invite les nations à prévenir les conflits en s'attaquant à leurs causes profondes et aussi pour garantir la jouissance de tous les droits à tous les peuples et aussi garantir tous les moyens possibles pour que ces peuples participent pleinement au processus de leur développement de leur société. Donc voilà ce que je peux demander aux auditeurs de retenir le plus pour les Nations Unies.
Bien, nous allons accueillir un auditeur depuis Mbanzangungu, Georges. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à Radio Capi, Radio de la Paix.
Nous parlons aujourd'hui de la création des raisons à la base de la création de l'Organisation des Nations Unies. Quelle est votre préoccupation?
Oui, merci pour cette parole accordée. J'aimerais que l'invité nous dise, c'est depuis que nous sommes nés, vous le savez tous nous sommes Congolais, et nous sommes victimes de plusieurs pratiques de violence et de guerres, et surtout dans les cas plus récents, à l'est de la RDC, il y a des guerres qui ne sont pas rétablies jusque-là, pendant que nous avons le NONI. Alors, à titre d'exemple, qu'ils nous disent un peu certaines actions de rétablissement de paix qu'ils ont menées en République démocratique du Congo en particulier, parce qu'ils ont pour travail de promouvoir la paix dans le monde. Voilà, moi je ne suis pas convaincu, parce qu'il n'y a même pas parlé des guerres entre les États, il y a aussi des guerres entre les tribus, les guerres de violence à l'est du pays, le moment violé. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme action positive au rétablissement de la paix en RD Congo?
Bien, merci Georges depuis Mbanzangungu. Monsieur Joseph Potopoto.
Oui, faire le bilan de toutes les actions des Nations Unies en République démocratique du Congo, c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Mais pour répondre clairement à notre auditeur, il faut se dire que les Nations Unies sont dans notre pays depuis 1960. Il y a eu deux interventions majeures, notamment avec l'ONU en 1960, et plus tard avec la MONUSCO, qui continue d'ailleurs jusqu'à présent. Bon, en termes d'action, il faut voir tout ce qui est fait la MONUSCO, notre force de maintien de la paix, mais il y a aussi à voir ce qu'est pour les agences du système des Nations Unies dans le cadre de la pacification de la RDC. Il est vrai que le monde est très connecté, mais cela ne veut pas dire que les individus et toutes les sociétés vivent réellement en paix. C'est vrai, la situation qui est à l'est du pays est très préoccupante, non seulement à l'est, mais même aussi dans d'autres provinces comme le Tanganyika, par exemple, où il y a des conflits entre le peuple autochtone, les Twa, et les autres Bantous. Les Nations Unies, je donnerai par exemple le cas de l'UNESCO, c'est l'agence au nom de laquelle je m'exprime maintenant. L'UNESCO a mené plusieurs projets dans la partie est de la RDC. Il y a eu un projet Tusikilizane, par exemple, qui est dans le Tanganyika, qui consiste à promouvoir la culture de la paix par l'éducation et par la sensibilisation par les médias. Il y a aussi Umoja, pas Moja, un projet que l'UNESCO avait conduit dans le Nord Kivu pour essayer justement de rapprocher les différentes communautés autour du concept de la paix, autour du vivre ensemble. Et en dehors de l'UNESCO, c'est vrai, il y a plusieurs autres agences qui ont fait beaucoup de projets. Il y a eu le projet PASEC où plusieurs agences des Nations Unies, notamment le PNUD et tant d'autres, ont participé. Mais il est vrai qu'en termes de bilan, ces bilans estime, notre auditeur estime qu'il est mitigé, mais nous pouvons dire sincèrement que des efforts doivent se poursuivre. L'accompagnement aussi du gouvernement de la RDC est indispensable pour que on arrive à adresser ces défis de la paix qui s'imposent non seulement à l'Est de la République, mais aussi dans toutes les autres parties du pays.
Bien. Joseph Potopoto, on peut dire que le seul but de l'ONU, c'est la paix, ou il y a d'autres objectifs en dehors, en plus de la paix?
Bien, c'est vrai qu'il n'y a pas que le défi de la paix, il y a aussi le défi du développement. C'est vrai que l'ONU, à travers ses différentes agences, est en train de promouvoir des accords politiques pour construire aussi le développement dans plusieurs pays. Toutes les agences des Nations Unies n'ont pas la même mission. Je prendrai par exemple le PNUD qui travaille pour le développement, l'OMS qui travaille pour la santé, l'OIT qui travaille pour la promotion du travail, le BCNIDH qui travaille pour la promotion des droits de l'homme. Donc il y a plusieurs thématiques pour comprendre les actions des Nations Unies. Il faut donc se rapprocher de ce que font ces agences pour mieux comprendre la politique et la vision des Nations Unies à ces.
Bien. Nous allons accueillir un autre auditeur, Kabbalah de Kindu. Bonjour.
Bonjour à Léon.
Nous parlons des raisons de création de l'Organisation des Nations Unies. Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est la suivante, monsieur le journaliste. La vraie MONUSCO qui s'occupait de tout ça n'est plus ici au Congo, car nous continuons toujours à vivre des guerres par-ci par-là. En même temps aussi, la même MONUSCO là, il est en train de nous créer des troubles par-ci par-là dans des différentes coins ici en RDC. Maintenant, c'est pour cette raison, nous voulons assez que la MONUSCO parte définitivement de notre pays.
Bien. Oui, bien. Merci, Kabbalah. Mais nous ne parlons pas particulièrement de la MONUSCO, nous parlons de l'Organisation des Nations Unies en général. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la création, par rapport à l'évolution? On arrivera certainement par rapport à la RDC, mais nous voulons d'abord avoir des informations sur le plan général.
Bon, normalement, la création de ça, c'est une bonne idée pour moi. Ça sera tout simplement aussi une question d'un pays à un autre. S'il voulait s'adhérer à ça, bon, ça ne sert à rien, car c'est une idée un peu géniale pour tous les pays qui s'associent à tout ça.
Bien, merci. Kabbalah de Kindu. Fariel, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Quel est ce que vous avez à nous dire par rapport à la création de l'Organisation des Nations Unies?
Oui, mais je dis, permettez-moi de revenir d'abord sur mon commentaire et après je pose mes préoccupations. Je disais, mais je dis que je serais injuste si je ne félicite pas cette organisation pour sa brillante prestation dans le monde. Non seulement pour la sécurité et le maintien de la paix internationale, mais aussi pour certaines agences spécialisées créées par cet organisme pour le développement. Je passe directement vite à mes deux préoccupations. Est-ce que cet organisme a atteint ses objectifs mondiaux? Ça, c'est la première préoccupation. Et la deuxième, au Congo, ce n'est pas tout le monde qui a confiance à la MONUSCO en disant que nous vivons dans la sécurité totale, c'est grâce à la MONUSCO. Quelle est votre réaction, M. Jody?
Bon, pas la mienne, je vais adresser la question à l'invité. D'accord, merci, merci Fariel. Monsieur Joseph Potopoto.
Bien, je comprends la frustration de notre ami, mais il faut avouer que actuellement il y a une multiplication de défis, tant au niveau mondial qu'au niveau de toutes les nations. Il y a des nouvelles formes d'inégalité, d'exclusion, de violence, de sectarisme, etc., etc., qui entraîne parfois une intolérance sociale qui nuit à la cohésion de l'humanité. Alors, les Nations Unies, qui chaque jour accomplissent sa mission humaniste, cette mission qui consiste à accompagner le peuple en vue de mieux comprendre et d'œuvrer ensemble pour aboutir à une paix durable, les Nations Unies, je disais, participent activement à la construction d'un monde sans danger, sans diversité. Mais il faut avouer qu'au niveau de chaque pays, la paix nécessite de plus en plus aujourd'hui un investissement actif. Il faut aussi au niveau des nations un leadership qui soit vraiment éclairé. Il faut des valeurs éducatives fortes. Il faut parfois mener des recherches approfondies dans les domaines de l'innovation sociale. Et aussi un univers des médias qui davantage participe aussi à la construction de la paix. Donc aujourd'hui, comme l'auditeur précédent a dit, il n'est pas aisé de régner ou de minimiser ce que fait les Nations Unies en République démocratique du Congo. C'est un accompagnement très actif qui, je ne cesserai de le répéter, nécessite également de la part du Congolais un leadership vraiment bien qui puisse vraiment rapprocher les Nations Unies avec les pays. Nous le faisons parce que les gens ne voient que ce que nous faisons avec la MONUSCO. Mais ils oublient, ils doivent savoir qu'il y a aussi des programmes de développement conjoints que le gouvernement de la RDC avec les Nations Unies mettent ensemble, ce que nous appelions dans le temps les UNGAF. C'est un programme de développement qui apporte aussi beaucoup dans la stabilisation de la République démocratique du Congo. Faudra-t-il que nous communiquions davantage pour que nos auditeurs, les Congolais en général, comprennent ce que font les Nations Unies, parce qu'il est vrai que la MONUSCO est notre miroir, mais en dehors de la MONUSCO, il y a énormément de choses qui se font dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, dans les domaines du développement en général, qui nécessitent absolument d'être portées à la connaissance de millions de Congolais qui veulent bien voir les Nations Unies accompagner les RDC dans un élan de développement qui soit possible pour le pays.
Quelles sont les raisons à la base de la création des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies? On en parle aujourd'hui dans cette émission de La Vie au quotidien. Au CAPI Service, des questions et préoccupations, eh bien, écrivez-nous à service@radioocapi.net.
À l'occasion des 75 ans des Nations Unies, retrouvez sur les antennes de Radio Capi l'histoire de l'engagement de la République démocratique du Congo dans le système onusien. L'accompagnement de l'Organisation mondiale dans le processus de développement et de stabilisation de l'RDC. Ensemble avec la famille de l'ONU.
Au Capi Service, jeudi Daniel Kachama.
Quelles sont les raisons de la création de l'Organisation des Nations Unies? Joseph Potopoto, je rappelle que vous êtes spécialiste des programmes communication et information au bureau de l'UNESCO à Kinshasa. Quelles sont les étapes de la création des Nations Unies? Pouvez-vous nous donner un peu l'évolution, nous expliquer comment les Nations Unies ont évolué jusqu'à ces jours?
Bien, il faut avouer que l'évolution des Nations Unies tient compte aussi de plusieurs défis mondiaux qui se sont imposés tout au cours de son histoire. J'ai dit au début que la création de l'organisation répondait à une conviction, celle de mettre le peuple du monde dans la paix après les deux guerres mondiales, mais il faut ajouter aussi à cela, en dehors de la construction d'une paix durable, l'évolution des Nations Unies s'est établie sur le fondement de la solidarité internationale. Et c'est ainsi que je peux résumer l'évolution de notre organisation. Nous travaillons pour l'avancement d'une solidarité internationale. Chaque fois qu'il y a un problème qui touche à la paix, qui touche à la sécurité, chaque fois qu'il y a des situations de guerre, qu'il y a des catastrophes, chaque fois qu'il y a besoin de réfléchir sur le défi de l'environnement, comme des pertinents problèmes de changement climatique, les Nations Unies se retrouvent dans de nouvelles approches qui font qu'elle continue à contribuer justement à la création d'une paix durable, d'un monde où les gens vivent vraiment dans la convivialité. Donc, je ne saurais pas faire une évaluation étape chronologique en fonction des temps, mais je pense qu'il faut mesurer notre évolution des Nations Unies sur la foi du fondement d'une solidarité mondiale qui a pris corps et qui continue à forger de nouvelles convictions pour l'organisation.
Bien. Voilà. Donc, mais à un moment, on parlait de la Société des Nations et après l'Organisation des Nations Unies. Où se trouve la... Qu'est-ce qui a expliqué cette évolution? Qu'est-ce qui était à la base de ces changements?
Bon, je crois que le père fondateur des Nations Unies ont pu sûrement se rendre compte que la Société des Nations peut-être avait montré ses limites, parce qu'elle est née après la Première Guerre mondiale. Et quelques temps plus tard, on a vu les velléités expansionnistes de certaines puissances qui ont été à la base de la Seconde Guerre mondiale. Il fallait rectifier les tirs après la paix de 1945, après l'armistice de 1945. On a compris qu'il fallait maintenant poser des nouvelles bases pour garantir une paix durable, parce que c'était premièrement l'objectif premier de la création de l'organisation. Donc, toutes ces évolutions ont été motivé par l'impératif de mettre en place des mécanismes qui tiennent dans la durée et qui vont garantir l'existence d'un monde beaucoup plus pacifique dans la vision de l'organisation. Et c'est là où je voulais ajouter quelque chose par rapport à l'UNESCO, qui est né aussi dans le même contexte. Vous savez, quand vous lisez les préambules de l'UNESCO, il est dit que les guerres naissent dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être aussi élevés les défenses de la paix. Et c'est comme ça que les Nations Unies évoluent. On évolue dans ce sens-là. Et là, comme j'ai dit, la paix n'est pas seulement l'absence de la guerre. La paix, c'est aussi le partage des valeurs, l'acceptation de l'autre, les dialogues interculturels, les dialogues interreligieux, les dialogues sociaux. Et tous ces éléments-là, mis ensemble, en tout cas, constituent les éléments de fond qui ont permis à ce qu'on arrive à une organisation qui montre vraiment ses efforts dans cette direction-là. Voilà ce que je peux dire à ce sujet.
Bien, nous allons accueillir deux auditeurs, Sylvain et Gabin de Kananga. Sylvain, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à la radio CAPI et aux auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la création de l'Organisation des Nations Unies?
Bon, dès le départ, nous avons salué cette création des Nations Unies, mais par après, nous sommes en train de comprendre que cette organisation n'est pas nécessaire dans notre pays, car ces interventions sont toujours retardées, et nous trouvons que l'ONU dispose des moyens qui peuvent intervenir dans certaines situations qui arrivent dans le pays.
Oui, Sylvain, vous parlez de la MONUSCO. La MONUSCO n'est pas l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. C'est vaste, c'est une grande organisation qui regroupe, qui a plusieurs agences.
Bien sûr, c'est une organisation qui s'intéresse donc d'une manière générale à la paix, pour bien dire.
Oui.
Et c'est sur ce point-là que nous trouvons que donc son intégration dans le pays n'a pas du tout d'importance, puisque il y a des conflits qui sont partout dans le pays, mais quand même cette organisation est là. Il n'y a pas une intervention consistante. C'est ainsi que nous n'avons pas voulu assez qu'elle puisse continuer dans le pays. Elle peut donc rentrer chez elle, puisque le pays est toujours en conflit, il y a toujours des problèmes qui surgissent de temps en temps, mais nous ne sentons pas sa présence.
Bien, merci Sylvain. Gabin, vous êtes aussi à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour chers journalistes, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Nous parlons de la création de l'Organisation des Nations Unies. Quelle est votre préoccupation par rapport à cela?
Ok, merci. Au départ, on saluait cette création de la MONUSCO, mais en fait, on a vu que cette création-là est aussi la MONUSCO. Il ne fait pas ce qu'on attendait d'elle. Nous, ici en République démocratique du Congo, on a vite compris que la MONUSCO nous distrait. Pourquoi? C'est comme si on est complice avec nos pays voisins pour récupérer nos ressources vraiment. Alors, pour moi, je condamne parce qu'elle ne fait pas ce qui est son objectif et aussi son rôle ici en République démocratique du Congo. J'interpelle les Congolais.
Quelle est la question que vous adressez à M. Joseph Potopoto qui est en ligne?
Si réellement la MONUSCO est à la base, peut-être, est à la médiation, pour me dire son objectif, que non, c'est bien elle qui peut régler le problème entre deux pays, peut-être, oui. Alors, ici au Congo, quelle est l'émission principale de la MONUSCO?
Bien, merci Gabin de Kananga. Monsieur Joseph Potopoto.
Oui, je comprends, comme je l'ai dit tout à l'heure aux auditeurs, je comprends cette tendance à s'acharner à ce qu'est la MONUSCO. Tout le monde voit la MONUSCO au sein des Nations Unies, du système des Nations Unies. Ça, je dois le dire encore une fois plus à nos auditeurs, il n'y a pas que la MONUSCO. Il y a des agences là qui sont, on appelle les agences de développement, il y a d'autres qui sont des agences humanitaires. La MONUSCO n'est qu'une force du maintien de la paix. Donc, pour mieux comprendre ce que font les Nations Unies, ce que font les Nations Unies, il faut nécessairement une approche, endogène, qui se veut aussi transdisciplinaire, qui associe toutes les agences des Nations Unies avec les organisations non gouvernementales en RDC, avec le gouvernement, avec les communautés locales, avec le secteur privé, avec la société civile. Je crois que ce que je vais demander à nos auditeurs, c'est de ne pas seulement voir les Nations Unies en termes de MONUSCO. Il faut voir ce qui est fait aussi par d'autres agences. Tant qu'on aura le regard qui est sur la MONUSCO, je crois qu'on aura une compréhension un peu erronée du travail que font les Nations Unies. La RDC est membre des Nations Unies depuis son accession à l'indépendance en 1960. Je vous dirais, par exemple, en ce qui concerne une des agences des Nations Unies que je connais bien, l'UNESCO. L'UNESCO est la première agence du système des Nations Unies qui est venue en RDC. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'UNESCO qui a contribué à l'érection de l'UPN, aujourd'hui, l'Université Pédagogique Nationale. Vous allez à Lubumbashi, il y a des bibliothèques qui ont été construites par l'UNESCO. Les systèmes éducationnels de la RDC a été mis en place par l'UNESCO, qui est une des agences du système des Nations Unies. Donc, je crois qu'il faudra être honnête, avoir l'honnêteté intellectuelle et aussi comprendre l'approche pluridisciplinaire de l'action des agences du système des Nations Unies pour qu'on comprenne réellement ce que font les Nations Unies en République démocratique du Congo.
Bien, nous allons accueillir Christian de Goma. Bonjour.
Bonjour, papa.
Quelle est votre préoccupation par rapport à la création des Nations Unies?
Oui, merci beaucoup. Ma préoccupation est la suivante. Moi, je constate que vraiment la mission des Nations Unies ne joue pas son rôle comme il fallait, parce que donc je constate qu'elle doit revoir son cahier de charges. Parce que la mission qui lui est attribuée, si c'est vraiment, on ne les constate pas. Je prends l'exemple d'ici chez nous, à l'Est, moi je vis à Goma, on constate qu'il y a des différentes rébellions qui se disent un peu partout ici à l'Est, des tueries massives de la population. En tout cas, on ne vit pas dans la quiétude, on n'est pas en sécurité. En tout cas, moi, selon moi, je constate que la mission des Nations Unies doit revoir son cahier de charges parce que ce qui lui est attribué sur le terrain, en tout cas, on ne le voit pas, on ne le voit. Ce n'est pas palpable. Selon moi, vraiment, je vois qu'elle doit revoir son cahier de charges en vue que la population congolaise, surtout nous, spécialement à l'Est, nous vivons quand même dans une quiétude et que chacun puisse vaquer librement à ses occupations.
Bien, merci Christian de Goma. Joseph Potopoto.
Oui, merci à Christian. Mais je pense que dans cette société congolaise de plus en plus diversifiée, avec 450 et une tribu, il est indispensable d'assurer une interaction harmonieuse et en vouloir vivre ensemble de personnes et des groupes qui ont parfois des identités culturelles plurielles, variées et dynamiques. Donc, des politiques qui doivent favoriser l'intégration et la participation, par exemple, de tous les citoyens, doivent être garanties au niveau du pays pour la cohésion sociale, pour la vitalité de la société congolaise et aussi pour la paix. Alors, je crois que le pluralisme interethnique dans le Congo fait montre aujourd'hui devait normalement... La réponse politique, la première époque politique, au fait de cette diversité. Alors, c'est là où je préfère lancer un appel aux Congolais qui nous suivent. C'est d'abord une affaire de respect de la diversité des cultures et la diversité des ethnies. Les Nations Unies ne sont pas à la cause de cette diversité. Les Nations Unies interviennent dans un pays, dans un contexte où le pluralisme interculturel constitue aujourd'hui, pluralisme tribal risque de constituer aujourd'hui un frein au développement, un frein à la cohésion sociale. Donc nous intervenons dans un contexte très très difficile, très très difficile. Donc je crois que sur ce point, une prise de conscience, un éveil de conscience est aussi à solliciter de la part des Congolais. Les Nations Unies peuvent accompagner, ils sont là pour accompagner, mais il faudrait qu'il y ait aussi des attitudes de changement, de comportement, le respect de la diversité culturelle auprès des Congolais. C'est ainsi que dans le cadre de notre action, nous soutenons justement cette approche du respect de la diversité culturelle, de la diversité ethnique, en faisant la promotion du dialogue interculturel, en faisant la promotion de la culture de la paix. Sans cela, il est difficile. Donc je pense qu'on ne doit pas tout attendre des Nations Unies. Les Nations Unies vont accompagner, mais en tout cas, les groupes se trouvent dans les camps des Congolais aussi. Ils doivent comprendre que nous sommes dans un monde qui est devenu, comme disait Marc Luan, un village planétaire. Et pour un pays qui a 450 tribus, il faut nécessairement le respect de la diversité culturelle, que chacun puisse comprendre que nous devons vivre dans la convivialité, la diversité, l'unité dans la diversité, comme le disaient les anciens dirigeants de ces pays.
Bien, quelles sont les raisons de la création des Nations Unies? Ingénieur Pierre nous appelle de Goma. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre préoccupation?
De ma part, vu ce qui se passe dans mon pays, la RDC, je constate que l'ONU est devenue comme une organisation créée non pour le maintien de la paix dans le monde, mais pour ses propres intérêts. Parce que c'est compréhensible avec le grand nombre de casques bleus que nous avons dans notre pays. Mais la sécurité ne cesse pas de s'augmenter, créée par les groupes armés locaux et étrangers, du jour au jour, en particulier à l'est de notre pays. C'est ça ma contribution par rapport à l'automatique du sujet.
Bien, merci. Joseph Potopoto, la même préoccupation revient. Les Nations Unies sont là, la MONUSCO particulièrement, mais il y a toujours des conflits, il y a des guerres dans le pays et beaucoup de Congolais ont la perception que les Nations Unies ne font pas leur travail.
Bien, c'est ce qui revient le plus dans ces échanges que j'ai avec les auditeurs de Radio Capi. Mais moi, je dois dire tout simplement que nous continuerons, nous, les Nations Unies, à promouvoir la culture de la paix partout en Afrique et particulièrement aussi en République démocratique du Congo. Alors, la culture de la paix, c'est un impératif du développement économique et social. C'est aussi un impératif pour le mieux vivre ensemble. C'est vrai que les frustrations, les tensions au niveau de la partie est de la RDC, comme les soulignent les auditeurs qui ont appelé depuis Goma ou depuis la partie est de la RDC, les tensions sont très, très, très dures, c'est vrai. Il y a une situation qui nécessite une approche beaucoup plus global qui intègre aussi les pays voisins de la RDC. C'est une situation que la RDC n'avait pas connue avant 1997, avant 1996. C'est arrivé, c'est vrai, mais il faudra que l'on puisse continuer à soutenir les initiatives pour la culture de la paix. Il y a eu plusieurs forums sur la paix dans la partie est de la RDC. La Nations Unies, par la MONUSCO, a soutenu toutes ces initiatives. Mais si on n'arrive pas à trouver la paix, je pense que c'est une interpellation pour les Congolais aussi. Il faut vraiment un leadership, comme je l'ai dit, un leadership éclairé au niveau national et au niveau aussi des provinces pour arriver à mettre tout le monde ensemble. C'est tout pour la population. Nous allons poursuivre par l'éducation à la culture de la paix, l'éducation au dialogue social, l'éducation à la, au respect de la diversité culturelle. C'est très important que toutes ces notions-là soient peut-être inscrites dans le programme de l'éducation, dans le programme des médias, et dans les forums, les forats traditionnels en milieu communautaire, pour qu'on arrive finalement à comprendre qu'on ne doit pas tout attendre des Nations Unies, mais les Congolais doivent aussi mettre la main dans la pâte. Allô?
Bien. Alors, une autre question avant de terminer, Monsieur Joseph Potopoto. Parmi les principaux objectifs de l'ONU, c'est le maintien de la paix dans le monde, le développement des relations amicales entre les nations, aider les pays à travailler ensemble afin de réduire la pauvreté, la famine, la maladie et l'analphabétisme. Dites-nous comment est-ce que les Nations Unies travaillent aujourd'hui pour atteindre ces objectifs?
Bien, les Nations Unies n'ont pour moyen d'action que les différentes agences qui sont qui les représentent sur ces différentes thématiques, les PNUD est là pour le développement, l'OMS est là pour les questions liées à la santé, et l'UNESCO est là pour l'éducation, pour les sciences, les changements climatiques, on a les PNUD, les PNUE. Donc nous avons une panoplie d'agences du système pour répondre à tous ces défis et arriver à des résultats par rapport à ce que nous nous sommes fixés comme objectif en tant que Nations Unies. Donc, c'est vrai que les Nations Unies travaillent dans plus d'une centaine de pays, peut-être 115 pays à travers le monde. Les enjeux et les défis sont énormes. Aujourd'hui, on voit la RDC, il y a les Liban, il y a les Mali, il y a plusieurs pays qui sont confrontés aussi à des problèmes énormes. Les Nations Unies, en tout cas, vous avez suivi ce qui s'est passé, les Nations Unies à travers le Conseil de sécurité, à travers l'Assemblée générale, est en train justement de faire ces défis. Je terminerai en disant, il y a aussi ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, l'agenda qui a été mise en place par les Nations Unies à l'intention de tous les États du monde. Pour que d'ici 2030, on arrive à une éducation, qu'on arrive à l'accès à tous à l'information, qu'on arrive à atteindre tous ces objectifs. Et la RDC doit devoir aussi dans ces processus, parce que si elle s'est mise en retard, je crois qu'elle ne pourra pas, tant qu'État membre des Nations Unies, être actif dans la dynamique de son développement. Donc il y a aussi des objectifs qui sont liés à travers les ODD, les objectifs de développement durable, et il faudra qu'on en parle davantage pour que les auditeurs de Radio Okapi comprennent que c'est vrai, les défis de la paix, sans la paix, il n'y a pas de développement. Il faut qu'on arrive à mettre à la paix pour que les objectifs de développement que les Nations Unies sont fixés et auxquels la RDC a adhéré pour qu'ils soient atteints d'ici 2030. Voilà, je voulais dire, je ne sais pas si vous avez encore une autre question.
Bien, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci, Monsieur Joseph Potopoto. Je rappelle que vous êtes spécialiste des programmes communication et information au bureau de l'UNESCO à Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci, merci aux auditeurs.
Les Nations Unies célèbrent ses 75 ans d'existence. 75 ans d'efforts inlassables pour la réalisation d'un monde meilleur. En 2020, quelle évaluation les peuples du monde peuvent faire pour l'idéal de l'ONU? Quelle est la contribution des acteurs politiques, économiques et culturels congolais à la construction de cette œuvre humaine? La Radio de la Paix vous propose des émissions spéciales à l'occasion des 75 ans des Nations Unies. Retrouvez-nous sur nos antennes, ensemble avec la famille de l'ONU.
Okapi Service, jeudi Daniel Kachama.
Okapi. Bien, merci de votre fidélité à Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Aujourd'hui, nous parlons des raisons à la base de la création des Nations Unies. Nous avons un auditeur en ligne, Steve, depuis Kinshasa. Bonjour.
Chaman, bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
Bonjour Steve.
Oui, concernant le sujet du jour.
Oui, quelle est votre préoccupation? Nous parlons de la création des Nations Unies. Quelle est votre préoccupation à ce sujet?
Entendre parler de la création des Nations Unies, mais avec ce qui se passe au terrain, c'est ce que j'ai dit ça. J'ai commenté ça sur la page Facebook. Ce qui se passe à l'est de notre pays, ça ne prouve même pas que l'ONU existe au Congo. Pourquoi? Le taux de mortalité aujourd'hui au Congo surpasse même le taux de mortalité de coronavirus en Afrique, entière. Mais ce qui se passe au Congo, l'Action Unie est là, à l'est du pays. Il y a nos minéraux qui sont en train de partir comme ça. Nous ne connaissons même pas l'existence et comment on est en train de vendre ça. Il y a des mamans qui sont violées là à l'est. Mais l'ONU parle qu'il existe ici au Congo. C'est pour cela, moi, je ne pense pas qu'il y a l'existence de l'ONU ici au Congo. Dites-moi que ce sont des organisations non gouvernementales qui attendent des financements peut-être internes ou externes.
Bien. Merci d'avoir appelé Steve de Kinshasa. Nous allons accueillir M. Kata Djuma Katina, enseignant à l'Université de la Paix de Goma. M. Kata Djuma, bonjour.
Bonjour, je dis Kachama.
Bienvenue dans cette émission de La Vie au quotidien qui s'intéresse aujourd'hui à la création, aux raisons à la base de la création des Nations Unies. Alors, d'après vous, quelles sont ces raisons?
En fait, à la création de la Société des Nations en 1946, la charte fondamentale que la Société des Nations avait été de construire une paix durable en favorisant les progrès économiques et sociaux de tous les peuples. C'était ça le credo, le leitmotiv de la Société des Nations à sa création. Alors, c'est dans le but précis, que la société, la SDN, créa des institutions spécialisées pour favoriser les progrès économiques et sociaux de tous les peuples pour la construction de la paix. Il y a des institutions qui ont été créées parce qu'on a toujours dit qu'il n'y a pas la paix sans les pains. Voilà pourquoi la Société des Nations a mis sur pied la BIRD, ça veut dire la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement.
Tous les financements des banques qui sont là, aujourd'hui je dois vous rassurer que les banques congolaises ont plus de financements que ce que demandent les entrepreneurs. Et donc je vais aussi encourager les entrepreneurs à partir par les moyens de bord. Nous avons aussi notre théorie que nous disons entreprendre avec zéro. Il y a d'autres idées, vous pouvez commencer avec zéro. Mais c'est juste à savoir qu'est-ce qu'il y a comme opportunité et comment on peut capitaliser.
Bien.
Donc moi, je pense que le problème de moyens ne devait pas vraiment être mis en avant comme vraiment un blocage, mais il faut savoir qu'on peut mobiliser les moyens même en interne.
Bien, comment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes Congolais? Nous avons en ligne Massémé depuis la ville de Goma. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation, Massémé?
Merci beaucoup. Je salue la Radio Capi pour la bonne sélection des thèmes. Je pense à tous les jeunes qui suivent cette émission. Alors, j'encouragerai à tous les jeunes de ne pas croiser les bras, d'entreprendre pour une entreprise en charge, aussi soit la réduction du chômage. Cependant, les jeunes congolais évitent de multiples obstacles, entre autres la surtaxation, la non-promotion des produits locaux par le gouvernement, les produits externes aussi qui priment sur les locaux. Et donc, cet état de choses empêche à beaucoup de jeunes de se lancer dans le business. Alors, bref, comme tout le monde ne peut pas avoir accès aux entreprises publiques, que l'État facilite le jeune Congolais d'accéder au crédit bancaire pour sa promotion au sein de la communauté en général. Je vous remercie.
Bien, merci. Joël, qu'est-ce que vous pouvez dire à Massémé?
Ouais, c'est de dire la même chose que c'est vrai, le crédit bancaire, il est actuellement ouvert à tous ceux qui sont déjà opérationnels comme PME, donc petite et moyenne entreprise. Dès que vous avez une entreprise qui génère des revenus et que vous avez vraiment des besoins bien définis, aujourd'hui les banques sont là pour financer. Et je dois rappeler que le rôle de la banque, ce n'est pas de dégrader de l'argent des gens, donc on dépose et on retire, ou de faciliter les paiements des salariés, c'est pas ça le rôle primaire
de la banque. Les ressources de la banque, c'est de financer l'entrepreneuriat. Et on en parle moins, mais c'est ça en fait. Et aujourd'hui, ce que nous recommandons aux entrepreneurs, vu qu'il y a un déficit vraiment de cette d'accès aux moyens de financement, c'est de trouver d'autres mécanismes. L'actionnariat local, par exemple, s'est lancé et une fois que vous êtes opérationnel, le site d'accompagnement va vous faciliter pour être plus viable et être éligible de tous les financements des banques. Donc je dois confirmer que les banques sont là pour effectivement financer les entrepreneurs, mais il faut être informé. Qu'est-ce que la banque exige pour être éligible pour les financements? Et la plupart des sites d'accompagnement sont actifs au pays ou aussi c'est partenariat avec les banques. Et dans nos événements, nous ne cessons d'inviter les banques qui viennent aussi présenter leurs offres aux différents entrepreneurs. Donc, ceux qui ne sont pas encore lancés et qui pensaient que c'est ça l'obstacle, je les invite vraiment à se lancer, de prendre la décision, de partir avec le moyen de bord et de se mettre dans la situation pour maintenant être en mesure aussi de bénéficier des financements bancaires qui sont disponibles.
Bien, Joël Tembo, nous savons que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont perdu espoir. Certains pensent que pour réussir dans la vie, il faut se lancer dans la politique. D'autres, bon, pensent carrément sortir du pays, aller vivre en Europe. Ils se disent qu'au pays, les choses ne marchent pas bien, on ne peut pas évoluer. Comment est-ce qu'on peut arriver à motiver ces jeunes gens, à les encourager à se lancer dans l'entrepreneuriat, au lieu de penser à la politique ou aller vivre en Europe?
Oui, juste d'abord informer à tous ceux qui nous suivent qu'en Europe, la plupart des étudiants vivent par ce qu'on appelle des jobs de vacances. Pendant l'été, la plupart des étudiants en Europe, ils vont chercher des opportunités. Et vous savez, c'est quoi? Il y en a qui vont faire entretenir le pommier. Il y en a plusieurs qui le font. Vous allez voir quelqu'un qui a quitté l'Afrique, qui arrive en Europe, il est prêt à faire tout travail, alors qu'ici, il ne veut pas le faire. Aujourd'hui, je vais dire à tous ceux qui nous suivent que le Congo, c'est un paradis. Mais pour que ça soit paradis, nous devons vraiment les transformer. Et les transformer comment? C'est de travailler par nos mains. Aujourd'hui, nous mangeons presque tout ce qui est importé, alors que nous avons la possibilité de produire. Moi, je vais inviter tous ces jeunes-là qui pensent vraiment que son avenir est en Europe ou dans la politique, où il va avoir un emploi dans une ONG, ou il va être employé par le gouvernement. Je les invite vraiment à voir à côté de soi ce qu'il y a comme opportunité. Regardez les produits qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, même les zones de l'Est où on était les greniers du pays, aujourd'hui nous voyons aussi, par exemple, les œufs naturels qui viennent des pays voisins de l'Est. Et ce sont des produits qui sont produits par des coopératives, des individus qui n'ont pas assez de moyens mais qui s'organisent. Donc aujourd'hui, j'invite vraiment les jeunes Congolais à se réveiller, de prendre conscience qu'ils sont responsables. Nous sommes responsables de notre destinée. Nous devons nous-mêmes travailler pour créer notre propre bonheur. On ne doit pas vraiment rêver que ça viendra d'un miracle. Il n'y aura pas une magie. Il y a certains qui pensent voilà qu'un jour, il y aura un gouvernement qui, par baguette magique, transformera tout et aura de l'emploi pour tout le monde. Non, ça ne sera jamais possible, c'est vrai. Il y aura des usines qui vont être créées. Mais vous savez, il y a toujours aussi des nouveaux demandeurs d'emploi. Donc, l'invitation que je lance à tous les jeunes qui me suivent, c'est vraiment d'avoir confiance en eux-mêmes, de prendre vraiment au sérieux le fait qu'ils sont dans un pays qui a des opportunités et de choisir au moins une de ces opportunités de les capitaliser. Et de ne pas banaliser aussi les travaux de main, parce que nous banalisons souvent l'agriculture, nous banalisons l'élevage, nous banalisons, alors que c'est là où il y a vraiment la vraie production des richesses. Et je sais que ceux qui vont vraiment prendre ceci au sérieux et mettre en pratique, ils vont commencer. Et je répète encore, les capitales, vous ne les cherchez pas loin. Vos téléphones, les jeunes ont des téléphones, mais les téléphones procurent quoi? La plupart de nos jeunes, le téléphone est devenu un outil d'appauvrissement. Un outil qui nous demande à quémander chaque fois, à dépendre des parents. Alors qu'avec un téléphone de $50, on peut investir dans un projet de poulailler, commencer avec 5, 10 poules, et les développer, avoir une vision et devenir un grand fermier qui va aider la RDC à renforcer son autonomie alimentaire.
Bien. Joël Tembo Vuira, je rappelle que vous êtes formateur, coach en entrepreneuriat et directeur général d'Equivu Entrepreneur. Merci d'avoir répondu à notre invitation depuis la ville de Goma et excellente journée.
Ok, merci beaucoup, monsieur Jody. Salut encore tous les auditeurs, merci.
La femme joue un très grand rôle dans la société. Prenons les cas de toutes ces femmes-là qui sont devenues veuves à cause de la guerre ou dont les maris n'ont pas le travail, tu sais, le poids que supportent, beaucoup de femmes supportent le poids de leur famille maintenant là, hein, soit dans les petits commerces. Donc la femme joue un très grand rôle, hein, c'est un rôle central dans la famille. Et le rôle de la femme n'est pas seulement cantonné au niveau des ménages, donc la femme doit s'épanouir aussi, elle doit aussi apporter sa contribution, et même sur le plan politique, raison pour laquelle, parmi les lois que nous devons absolument réviser, lorsque viendra les moments de réviser la loi électorale, vous savez que je suis l'un des membres des 13 personnalités qui militent pour un consensus dans le processus électoral au Congo. Pour la loi électorale, il va falloir aussi voir la question du genre dans cette loi-là. Est-ce qu'il ne faut pas aller même jusqu'à proposer carrément un quota, hein, pour les partis politiques, un quota des femmes dans les candidats? Alors, c'est une question qu'il faut y réfléchir. Et donc, la question du genre, c'est pas une question... le genre, c'est pas seulement pour la femme. Et puis, le genre, c'est la femme, mais... C'est l'égalité aussi des chances, c'est ça. Quand on parle du genre, ça renvoie
honorable, à l'égalité des chances. Par exemple, oui. Au niveau des partis politiques, pourquoi généralement, lorsqu'on les partis présentent les candidats, les femmes sont toujours sous-représentées?
Je crois qu'il faut travailler à deux niveaux. Il y a d'abord le niveau des leaders politiques qui ne favorisent pas, hein, les leaders. C'est pas tous les leaders des partis politiques qui facilitent l'alignement des femmes, hein, sur les listes des partis. Chez nous, à l'UNC, les femmes ont été alignées. Et donc, il faut sensibiliser davantage les leaders des partis politiques. Ça, c'est un premier axe du travail à faire, ou du plaidoyer à faire. Un autre axe du travail, c'est d'inciter auprès des femmes aussi des ambitions, hein, susciter des ambitions. Il faut que les femmes s'expriment et pas seulement être derrière les hommes. Donc là aussi, c'est un travail à faire aussi, parce que la politique, comme vous le savez, comme on dit, il y a un adage que ça s'arrache, quoi. Hein. C'est pas des cadeaux, on n'offre pas ça sur un plateau d'argent. Et donc, les femmes doivent se battre, on est tous d'accord avec ça, mais au niveau, il faut aussi leur faciliter la tâche, hein, parce qu'il faut l'accès égalitaire, l'égalité des chances et l'accès égalitaire à l'exercice du pouvoir, le droit à la participation politique.
Voilà. Alors aujourd'hui, il y a des discussions par rapport à la loi électorale et par rapport à la CENI. Voilà, plusieurs personnes, plusieurs voix s'élèvent, sont d'accord pour que la CENI soit restructurée. La loi électorale également doit être revue. Est-ce qu'on peut dire que ce sera l'occasion de pouvoir rendre cette loi beaucoup plus sensible aux gens?
C'est une opportunité, et ça je le dis à Madame Annie Maudit, parce qu'avant même de lancer l'appel du 11 juillet, je l'avais intéressée, je sais son dynamisme, à la tête des Afiamama, très dynamique sur cette question, et elle a été d'accord avec nous, elle était un peu empêchée, mais elle devait aussi être parmi les signataires de notre appel, et on reste en contact avec elle. Moi je crois que c'est une opportunité aussi, parce que l'initiative des 13 parlementaires vise à asseoir un consensus dans le processus électoral, parce que les tensions sont fortes dans la classe politique au Congo. Nous avons eu le temps de les dire à Radio Capi au cours d'autres tranches, soit dans les tranches des journaux parlés. Mmh. Et donc c'est important qu'à travers ces forums techniques que nous voulons, hein, axés uniquement sur la question des élections, lorsque viendra le moment de réviser la loi électorale, qu'on tienne compte de la dimension genre. Hein, c'est vraiment une opportunité à saisir, et je crois que Afiamama est en train de m'écouter, c'est une opportunité à saisir pour que dans les modifications qui interviendront, qu'on en tienne compte de la question du genre. Hein, on ne peut pas s'en passer en tout cas.
Bien, Madame Annie Maudit, votre réaction par rapport à ce que l'honorable vient de dire. Madame Annie, vous êtes en ligne?
Allô?
Oui, allez-y.
Je disais... semble dans les processus d'améliorer la représentativité des femmes dans toutes les institutions, nous saisissons effectivement l'opportunité que la réforme offre pour essayer vraiment pour impulser cette représentativité des femmes. Et nous travaillons aussi avec les femmes, nous travaillons sur les femmes pour qu'elles soient formées. Nous avons le mouvement Rien sans les femmes. Nous avons aujourd'hui la dynamique des femmes candidates, les cartels des femmes, les femmes leaders. Tout ça, c'est des plateformes que nous avons créées, mises en place pour accompagner les femmes. Ça s'est fait parallèlement à des efforts que nous fournissons pour que les décideurs maintenant arrivent aussi à valoriser, considérer, reconnaître et aligner les compétences féminines. Ce ne sont pas les ambitions qui manquent, c'est peut-être parfois les courages. Et comme on a dit, ça vient de très loin. Nous avons des racines qui proviennent de nos familles. Et comment on a éduqué, un aspect qu'on n'a pas touché, mais qui nous touchons toujours, c'est que nous devons aussi changer la manière d'éduquer les enfants à partir de la maison. Comment une fille est préparée à prendre le courage, à prendre les risques, à s'affirmer, à prendre la parole, à ne pas être timide? Ça commence à la maison. Ça, c'est aussi un aspect que nous touchons pour qu'à long terme, nous ayons des adultes capables de prendre le courage, de prendre les risques de la même manière. Puisqu'on a tendance à protéger un peu à l'excès la petite fille, mais ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on détruit son courage, on détruit sa capacité à prendre les risques, on détruit sa capacité à relever des défis qui sont en dehors de l'espace familial ou du foyer. Nous travaillons à plusieurs niveaux et je suis d'accord que la réforme a offert une opportunité, mais c'est ensemble, main dans la main, les hommes genrés ou les he for she qui croient à la contribution de la femme, à la participation de la femme ou le développement de la RDC. Ensemble avec les femmes, nous allons arriver à relever ces défis-là.
Bien. Comment promouvoir les lois et règlements en faveur de la parité? Nous allons clôturer cette première partie de l'émission. Nous allons dire merci à Madame Annie, nous disons merci à Madame Annie Maudit, présidente de l'ONG Afiamama, et merci à l'honorable Juvenal Munobo, député national. Nous allons, après les informations, nous allons poursuivre cette émission et nous allons accueillir l'honorable Dédé Mopassa, député national, pour en savoir un peu plus. Madame Annie et honorable Juvenal Munobo, merci.
Merci, monsieur Jody Kachama.
Bien. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Okapi Service. Nous mettons ainsi un terme à cette première partie de l'émission Okapi Service. Nous allons souffler un tout petit peu. On va suivre les informations et on se retrouve juste après. Restez avec nous.
Nous, ce qu'on est inquiet, c'est au-delà.
Radio Okapi. Écho des développements.
Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouveau numéro des Codes du Développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et des développements durables qui fait le point de la gestion du secteur du tourisme en RDC depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Cette émission vous est présentée par Tati Mapoukou. Polydor Basunga s'occupe de la prise de son sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ce numéro spécial consacré au bilan de la gestion du secteur de tourisme en RDC depuis l'indépendance jusqu'à nos jours.
Radio Okapi vous propose désormais ses magazines thématiques hebdomadaires du lundi au vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Retrouvez Maïcha Bora chaque lundi. Droit et citoyenneté, mardi. Parité et famille, mercredi. Écho du développement, jeudi. 100% jeunes, vendredi à 12h30, heure de Kinshasa. Sachez également que les magazines étoiles vous est proposé désormais samedi à 19h05 et lundi à 15h30. Identité culturelle, samedi à 8h30 et dimanche à 11h05. Grande interview, samedi à 10h05 et dimanche à 9h05, heure de Kinshasa. Prenez également rendez-vous avec les magazines des Nations Unies tous les dimanches à 8h30 et 19h05, heure de Kinshasa. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de rester branché à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Pays magnifique renfermant d'énormes atouts naturels aussi insoupçonnés qu'attrayants, la RDC présente des univers divers avec un patrimoine culturel extraordinaire porté par les quelques centaines d'ethnies qui composent sa population. Son riche écosystème présente une variété de paysages d'une beauté exceptionnelle, savanes, forêts profondes, montagnes, mangroves, fleuves Congo et rivières, elles-mêmes façonnées par la diversité climatique. Cependant, le secteur touristique n'est pas assez développé. Et pourtant, certains spécialistes soutiennent que le secteur du tourisme peut générer des revenus dans les trésors publics congolais. Quel bilan faire de la gestion du secteur touristique de l'indépendance à nos jours en RDC? Comment bien assurer la promotion du tourisme en RDC? De plus amples détails dans ces nouveaux numéros des Codes du développement qui débutent par les portraits que nous dresse M. Joël Kabongo, chargé de communication de Celi Safari, une entreprise qui gère les chutes des Zongo. C'est un site touristique situé au Congo central.
Si je peux parler de Celi Safari Zongo, on peut commencer par son origine. Tout a commencé par un désir de surprendre. Monsieur Sunguza a juste voulu surprendre sa femme un jour. Il dit, bon, ok, on va faire un tour. Et arrivé aux chutes de Zongo, il en est tombé amoureux. Et depuis ce jour, c'était en 2008. Et 2008, ce site appartenait à quelqu'un. Depuis 40 ans, il en était propriétaire. Et en 2008, il a acquéri les titres de propriété. Il a transformé. Aujourd'hui, Celi Safari Zongo offre plus ou moins 65 types de logements. Nous avons des résidences, nous avons des villas, nous avons des chambres, des bungalows. Et notre fonctionnement, au fait, nous fonctionnons par réservation. Vous pouvez réserver à Kinshasa, vous pouvez réserver en ligne, par email ou par WhatsApp. Et, c'est ça au fait. Je peux même dire qu'en réservant, le départ de Kinshasa est très facile. L'accès à 135 km de Kinshasa à ici, vous n'avez qu'à rêver au fait. Tous les jours, nous voulons surprendre les gens pour rêver. C'est comme ça que nous fonctionnons.
Le tourisme est considéré autrefois comme un voyage d'agrément est devenu, de par le monde, une industrie. Il crée beaucoup d'emplois directs et indirects aux personnes de toutes catégories dans les milieux urbains et même les plus reculés et génère beaucoup de recettes pour des pays qui l'organisent. Le secteur du tourisme contribue à la hauteur de 10% du PIB à l'échelle mondiale. Mais en RDC, ce secteur contribue seulement à la hauteur de 1% dans les PIB, d'après M. Yves Bonkoulou, ministre national du tourisme.
D'après les statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme, le secteur du tourisme, d'abord à travers le monde, contribue à 10% du PIB mondial et participe à 30% des exportations et emploie 1 sur 10. En République démocratique du Congo, il sied également de les signaler. Nous avons réellement des difficultés pour donner des statistiques fiables, étant donné que le secteur du tourisme se retrouve dans le secteur des services marchands, mais nous estimons à peu près à 1 à 1,9% de contribution dans le PIB. Et si nous y travaillons très sérieusement, nous sommes très sûrs que dans les années à venir, nous pouvons également atteindre à contribuer à 10% de l'économie de notre pays.
Il y a des préalables à réunir pour que le secteur touristique soit rentable, soutient le professeur Jean-Paul Ramazani, expert en économie touristique. Ces principes ne sont pas encore mis en pratique en RDC.
Le tourisme qui est une industrie a ses caractéristiques. Trois principalement qu'on doit retenir. D'abord, c'est une industrie lourde, mais à rentabilité lente. Autrement dit, si vous investissez aujourd'hui, n'attendez pas que dans 2-3 ans, vous puissiez rentrer dans... Non. C'est dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il faut de la patience. Deuxièmement, le tourisme, c'est une industrie lourde, mais à financement onéreux. Ça veut dire que vous courez même les risques. Avec tout ce que nous connaissons, c'est une entreprise très risquée, mais qui peut générer beaucoup de recettes. Encore ici chez nous, les entreprises touristiques, voulais-je dire, sollicitent les financements dans les mêmes contextes que les autres entreprises. Ça, c'est le problème, ce sont des préalables que nous devons examiner sur le plan national afin que nous puissions lancer l'industrie touristique congolaise.
Le secteur touristique en RDC n'est pas encore assez développé. Le pays regorge cependant des potentiels démesurés, ajoute M. Yves Bonkoulou, nous rappelant qu'il est le ministre national du tourisme.
Nous avons encore un produit touristique à définir. Aujourd'hui, nous n'avons pas un produit touristique à vendre. Je crois que le professeur l'a relevé. Et aussi, un sérieux problème en ce qui concerne l'organisation du secteur privé. Le tourisme, ce n'est pas le pouvoir public qui vend le tourisme. Ce sont les tour opérateurs. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un parc, il ne suffit pas d'avoir des chutes, mais il faut également le rendre attractif. C'est ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de notre projection, de notre plan directeur que nous sommes en train de mettre en place pour réellement rendre attractif ces différents sites et aussi définir un produit touristique que nous allons vendre à travers le monde. Et je crois que c'est à ce moment-là que réellement la République démocratique du Congo, nous allons entrer dans la compétitivité dans le monde du tourisme. Et en ce qui concerne les différents sites, je crois que la République démocratique du Congo a une potentialité énorme et une diversité. Ici, là où nous nous retrouvons, c'est un merveilleux site touristique, et les jardins botaniques de Kinshasa. Mais nous devons soulever qu'il y en a nombreux. Je ne saurais pas tout citer. Nous avons environ plus de 1400 sites touristiques qui sont répartis en sites culturels, en sites historiques, en sites géomorphologiques. Mais si je dois citer quelques sites, et en commençant par la capitale, ici la ville de Kinshasa, nous avons les jardins botaniques. En face de nous, nous avons les jardins zoologiques. Nous avons également
Lola
et Bonobo. Quand vous allez vers le Congo central, nous avons le chute des Zongo, nous avons des grottes au niveau de Mbanzangungu. Nous avons les sites des poissons aveugles à Vampa. Nous avons également la plage qui a pratiquement 40 km, la côte à Mwanda. Nous avons également à Tianfumu, qui était la cité des esclaves. Nous avons les musées nationaux à Kinshasa, à Lubumbashi. Nous avons également des jardins botaniques, que ce soit à Lubumbashi.
À Mbandaka,
nous avons les jardins botaniques de Yala, les jardins botaniques de Kisantu dans le Congo central. Et nous avons 9 merveilleux parcs. Il faut le dire, 5 qui sont placés dans les patrimoines universels de l'UNESCO. Et nous avons également des lacs qui sont également des véritables attraits touristiques que possède la République démocratique.
Le gouvernement congolais envisage créer une véritable industrie du tourisme dans tout le territoire national, selon Yves Bonkoulou. Nous rappelons qu'il est le ministre national du tourisme. Quelques axes prioritaires sont retenus dans les plan stratégique de la promotion du tourisme en RDC, ajoute Monsieur le ministre.
Notre vision, c'est réellement de rendre le tourisme une industrie. Le tourisme à travers le monde est devenu une industrie, mais pour le rendre une industrie, il y a beaucoup de préalables. Et parmi ces préalables, nous avons pensé mettre en place un plan stratégique. Dans le plan stratégique, nous l'avons énuméré en 5 axes majeurs. Le premier axe, c'est l'axe de la normalisation du secteur. Il faut le rappeler que la République démocratique du Congo n'avait pas dans ses ambitions le tourisme comme un des secteurs majeurs. Et s'il faut rentrer dans l'histoire, ce n'est qu'en 2014 que nous avons réellement eu un ministère entier du tourisme. Parce que dans le temps, il faut le dire, le ministère du tourisme était d'abord une direction au sein du ministère de l'Environnement, Culture et Arts à l'époque. Et petit à petit, ces ministères étaient devenus connexes, soit au ministère de l'Information, soit au ministère de la Culture, soit au ministère de l'Environnement. Et depuis 2014, la République a réellement compris que nous pouvons faire de ces secteurs un grand atout pour le pays. Et sur ce, nous sommes en train de travailler avec la loi qui est arrivée en 2018, pour mettre en place les mesures réglementaires pour organiser les secteurs. Parce que le secteur du tourisme, il faut, si on doit s'en souvenir, n'est régi que par quelques lois disparates, quelques ordonnances prises à l'époque du président Mobutu sur l'organisation du secteur, effectivement, qui sont devenues obsolètes, l'organisation du secteur de l'hôtellerie, des débits de boissons, de restaurants. Mais aujourd'hui, le tourisme ne se limite pas qu'à ça. Raison pour laquelle nous avons pensé à la normalisation du secteur, la mise en pratique des mesures réglementaires qui encadrent la loi et également la question de la formation. Nous devons nous poser la question, est-ce que la qualité de l'enseignement que nous donnons à la République démocratique du Congo nous permet réellement d'être au niveau de nos ambitions? Je ne pense pas.
Radio Okapi vous propose ses programmes en mode télétravail suite à l'état d'urgence sanitaire en cours. Retrouvez toutes nos émissions interactives Okapi Service du lundi au vendredi de 10h à 12h en rediffusion de 20h à 22h heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs du lundi au vendredi de 13h à 14h en rediffusion de 22h à 23h heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais du lundi au vendredi de 19h15 jusqu'à 20h en rediffusion le lendemain matin de 4h45 jusqu'à 5h30 heure de Kinshasa. Radio Okapi vous présente toutes ses excuses pour toutes sortes de désagréments et perturbations constatées durant notre antenne. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Vous êtes en train de suivre Éco du Développement, votre magazine qui traite les questions de l'environnement et des développements durables, qui fait les bilans de la gouvernance du secteur du tourisme en RDC depuis les années 60 jusqu'à nos jours. La baisse du tourisme dans les aires protégées de la RDC est due notamment à l'insécurité récurrente et à l'absence d'un management pouvant promouvoir ce secteur, indique Cosma Wilungula, directeur général de l'Institut Congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle.
Nous avons eu un très mauvais marketing. Le marketing de l'insécurité, le marketing même de la méconnaissance de ce que c'est les aires protégées par le dirigeant, par le gouvernant. Aujourd'hui, vous pouvez réfléchir avec moi à haute voix. Dis-moi au gouvernement aujourd'hui congolais, combien de ministres ont déjà été dans un parc? Et c'est ça qui fait le problème, parce que le propre gouverneur congolais ne connaît pas même ce que c'est les aires protégées. Et à la fin de compte, l'international d'assurance a posé un problème sérieux. Ça aussi, les Congolais ne le savent pas. Ce qui fait que tout touriste qui vient en RDC est considéré comme un touriste tout risque. Et il ne bénéficie pas de l'assurance pour venir en RDC. Ce qui décourage plusieurs tour opérateurs d'avoir l'opportunité d'envoyer des gens ici qui ne peuvent pas être assurés. Si un touriste connaît un problème dans notre pays, comme il peut être tué, abattu ailleurs, il n'est pas assuré parce que l'International Agence à Londres n'assure pas des touristes qui viennent au Congo. Il faudrait que le ministère du Tourisme, les gouvernements congolais, commencent par régulariser au niveau de l'International Agency d'assurance, le mécanisme qui permettrait de garantir cette assurance et que les touristes arrivent à être garantis, qu'ils se sentent libres de venir ici et en cas de problème, ils peuvent aller. Nous avons connu un exemple banal, je termine par là rapidement, pour vous dire quand on a eu deux touristes britanniques pris en otage à Goma. Je vous dis que j'ai vu, même le gouvernement britannique m'a appelé. Et c'était une grande lutte pour obtenir leur libération. Dieu merci, ils n'ont pas été tués et qu'on a réussi dans une semaine à obtenir la libération de ces deux journalistes. Mais toutes les agences étaient pratiquement préoccupées parce qu'ils n'avaient pas bénéficié d'une assurance qui pouvait garantir leur survie. Et pourtant, dans d'autres pays comme le Kenya, vous avez déjà une assurance dès le départ. Et les touristes et les tour opérateurs assurent le mécanisme de voyage des touristes sous déjà cette couverture-là. Mais chez nous, c'est comme si cette information n'existait pas et ça pose de sérieux problèmes sur le plan de développement touristique, bien sûr sans compter tous les préalables auxquels nous devons arriver. Vous avez le visa le plus cher pour que les gens viennent. Nous venons de trouver des mécanismes aléatoires. L'ICCN a signé avec l'immigration un protocole d'accord pour faciliter le tourisme. Mais ça coûte très cher à l'ICCN parce que je dois rétrocéder 100 dollars par touriste qui entre chez nous au niveau de la DGM.
Le ministère des tutelles va bientôt lancer le tourisme scolaire et social, ajoute Yves Bonkoulou. Nous signalons qu'il est le ministre national du tourisme.
Nous avons relancé les concepts du tourisme domestique en mettant bientôt là en place le tourisme scolaire qui doit réellement répondre. Et nous avons également ajouté un contenu à cela. Et en ce qui concerne les entreprises, dans le cadre du tourisme social, qui est également une des missions de notre Office national du tourisme, nous sommes en train d'étudier avec Madame le ministre du Travail comment est-ce que nous pouvons réellement faire bénéficier aux travailleurs congolais le vacances comme ça se passe ailleurs. Je crois que partout ailleurs en Occident, pendant ce mois de juillet, vous écoutez que c'est tout le monde qui part en vacances. Mais je crois qu'en République démocratique du Congo, nous avons énormément de difficultés. Mais je pense que cela ne peut pas nous empêcher réellement à bénéficier de ces différentes opportunités.
Les transports, l'hébergement, la restauration et l'animation sont des services clés du développement du secteur touristique, affirme Jean-Paul Ramazani. Nous rappelons qu'il est spécialiste en économie touristique.
Pour développer le tourisme, nous avons quatre composantes. Nous avons les transports, nous avons l'hébergement, la restauration et l'animation. Il faut faire la symbiose de ces quatre composantes. Ce sont ces quatre composantes qui sous-tendent disons, l'économie du tourisme. Mais le transport n'est pas géré par le ministère du transport.
Du tourisme, vous voulez dire?
Le ministère du tourisme, ouais. Voulais-je dire. Excellence, les quatre ministres du tourisme. Le premier, c'était Madame Birigno, la première, Madame Birigno. Après, c'était, je crois, Son Excellence Kakule, et puis Ngbanda. Voilà, donc, on institue le ministère du tourisme, après ça disparaît. Ce qui fait que il n'y a pas une continuité des politiques. Lui vient adopter, nous espérons qu'après lui, le ministère du tourisme va résister, nous espérons. Alors, lui ne gère que la partie hébergement, restauration, pas du tout l'animation. Donc, il est obligé de voir avec les autres collègues. L'opérateur Zongo a dit qu'il y a un problème d'accessibilité. Ce n'est pas le ministre qui va construire la route. Non, il y a un ministère d'infrastructure. Il faut que aussi ces ministères-là puissent comprendre la responsabilité que son département a pour essayer d'arranger les routes vers, les voies d'accès vers
les sites touristiques.
Mais ce n'est pas sa priorité. Vous voyez que nous n'aurons pas une même priorité, mais plusieurs priorités qui, en principe, ne peuvent pas faciliter le tourisme. La partie animation, je prends seulement les sites touristiques, ça fait partie des animations. Ce n'est pas Son Excellence qui gère, c'est le ministre de l'Environnement. Et là, c'est une autre logique. Or, le tourisme doit réunir toutes les quatre composantes. Vous ne pouvez pas dire que quand les touristes doivent venir, non, il a besoin des moyens de transport pour qu'il quitte chez lui et venir ici et à l'intérieur. Mais Son Excellence doit essayer de dialoguer avec les autres. Et la plupart des fois, ce sont les privés qui entreprennent, ils ont leur logique. Ça, c'est une première difficulté pour ces composantes-là. Essayer de les constituer en forfait touristique. Et c'est un tour opérateur qui peut le faire. Deuxièmement, c'est au niveau de la population que nous sommes. Nous n'avons pas une culture touristique. Ce n'est pas par notre propre faute, non. C'est là où nous disons que dans le tourisme, le pouvoir public a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Dans le sens que il faut qu'on puisse commencer à apprendre aux enfants qu'ils ont droit aux vacances. Les vacances. Vous attendrez, dans les autres pays, on vous dit que non, le gouvernement est en vacances. Hein, et le chef de l'État part en vacances. Et vraiment, vacances, vous allez les retrouver au niveau des stations touristiques, des plages. Il oublie un peu qu'il est président, parce qu'on a besoin de ça. Quand on paie les congés payés, cet argent, ce n'est pas pour acheter des tôles pour votre maison, mais c'est pour que vous puissiez partir en vacances. Je peux quitter avec ma famille, je pars à Zongo, pour un mois, je reste. Ça contribue à l'économie touristique, mais aussi à ma santé. Il est médecin, il le sait. Le temps de repos. Mais il n'y en a plus. Est-ce que dans notre société, nous avons le temps libre? On n'en a pas. On doit essayer d'inventorier les temps libres. Nous sommes 6 jours au travail, les dimanches, le 7e jour, nous sommes à l'église toute la journée, du matin jusqu'à la nuit. Donc, on n'a pas de temps libre. Alors que le temps libre, c'est un facteur de développement du tourisme. Quand nous apprendrons que nous avons droit au congé, de ces congés-là, je peux avoir des vacances. Parce qu'on m'a payé ce qu'on appelle pécule des congés. Je peux aller en congé et ça va aller de soi.
Un comité interministériel sera mis en place avec comme objectif principal de coordonner toutes les activités relevant du secteur du tourisme en RDC, indique Yves Bonkoulou. Nous rappelons qu'il est le ministre national du tourisme.
Nous avons réellement pensé à mettre en place un comité interministériel. Je crois que le professeur l'a soulevé. Nous sommes un ministère qui vit aux dépens des autres. Nous avons également le ministère des Affaires étrangères. Pourquoi le ministère des Affaires étrangères et de l'Intérieur? Vous avez évoqué la question de la sécurité. Il y a également des difficultés qui sont énormes en ce qui concerne les visas en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avons jeté les bases. Bientôt, en République démocratique du Congo, nous aurons un visa touristique. C'est un dossier qui a déjà été déposé au niveau du gouvernement. Mais nous ne pouvons que l'obtenir avec l'appui et surtout l'accord de ces deux ministères. Et au-delà de ça, cela va également faciliter l'accessibilité en ce qui concerne les touristes pour avoir leur visa et revenir en République démocratique du Congo, ce qui aujourd'hui constitue une énorme difficulté. Avec le ministère des Affaires foncières, parce qu'il faut les relever, le tourisme, c'est comme une pyramide, l'industrie touristique. La base constitue son lancement. Mais avant de lancer l'industrie du tourisme, je crois que nous avons parlé de produits. Mais nous devons nous poser la question de savoir, nous avons combien d'hôtels en République démocratique du Congo? Mais pour avoir des terrains et développer ces différentes activités, nous avons besoin effectivement du ministère des Affaires foncières. Voilà pourquoi ce ministère également est prévu. Comme étant un ministère qui doit faire partie de cette équipe, mais aussi le ministère de transport qui organise réellement les déplacements à travers tout le réseau et aussi le ministère des infrastructures qui prend en compte le développement des infrastructures en ce qui concerne le réseau routier.
Yves Bonkoulou, ministre national du tourisme, reconnaît que les bilans de la gestion du secteur du tourisme en RDC depuis les années 60 jusqu'à nos jours n'est pas reluisant. Le développement du secteur touristique passe par la collaboration du pouvoir public avec les partenaires qui évoluent dans le secteur, conclut M. Yves Bonkoulou. Nous rappelons qu'il est le ministre national du tourisme.
Je pense que le secteur du tourisme en République démocratique du Congo, au regard des 60 les années passées, est mitigé. Et mitigé, pourquoi je l'ai dit, malgré nos difficultés, la République démocratique du Congo, il faut le signaler, en 2019, le parc national de Virunga s'est situé parmi les 20 meilleures destinations ici en Afrique. C'est quelque chose. Et en ce qui concerne le classement au niveau de l'Afrique, nous sommes très loin, nous sommes 35e, au même titre que l'Angola. Cela ne nous revient pas, ne nous convient même pas. Je crois qu'ensemble, les pouvoirs publics, les opérateurs privés, ensemble, nous allons réellement développer le tourisme dans notre pays. L'État est conscient des difficultés, l'État est conscient de ses besoins immenses et petit à petit, nous allons y répondre, mais nous devons commencer par la base. La base, comme je l'ai dit, constitue d'abord avoir des instruments qui vont nous aider réellement à développer le tourisme. Les instruments majeurs que nous devons avoir, c'est la politique nationale du tourisme ainsi que les plans directeurs intégrés. Et la politique, elle est en élaboration. Si tout va bien, d'ici le mois de novembre, nous aurons notre politique nationale du tourisme parce que cela nous demande beaucoup d'études. Il faut voir les enseignants, il faut voir les privés, il faut aller sur terrain. C'est un travail très laborieux. Et ces deux instruments qui vont nous aider avec le plan directeur qui fixe réellement, le plan directeur que nous avons élaboré pour 10 ans, qui fixe réellement les différents investissements et les stratégies à mettre en place et les réponses également aux problèmes que nous avons dans le secteur pour que réellement nous puissions investir dans le domaine du tourisme et donner la place de la République démocratique du Congo que nous espérons parmi les 5 meilleures destinations d'ici 2030 à l'issue de l'exécution de notre plan directeur.
C'est par ici que nous clôturons ce magazine consacré au bilan de la gestion du secteur du tourisme en RDC depuis les années 60 jusqu'à nos jours, que vous a présenté Tati Mapoku. Polydor Basunga était à la prise des sons sous la coordination et la supervision de Jean-Marc Matouaki. Retrouvons-nous pour un nouveau numéro des Codes du développement le jeudi prochain. À bientôt.
Où ils vont.
Allô, professeur.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bonjour, c'est professeur Jean-Marie
Gauthier Moussengue.
Ah, professeur Gauthier Moussengue.
Oui, de département de sociologie à l'UNIKIN.
Bien. Bienvenue, professeur. On va démarrer dans quelques instants.
Radio Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Coronavirus et l'alcool, quels sont les risques? Depuis le début de l'épidémie du Covid-19, une rumeur selon laquelle l'alcool était un remède pour combattre les virus était vite propagée. Beaucoup de personnes sont convaincues que les boissons alcoolisées aideraient à guérir de Covid-19. Pour les experts, la consommation excessive d'alcool, déjà peu recommandée en temps normal, peut s'avérer plus dangereuse encore en période de la pandémie. Dans certains quartiers populaires de Kinshasa, par exemple, l'alcool frélaté coule à flot. Les jeunes font des cocktails d'aguené, de l'otoko et des différents whisky dénommé Matrapa afin de, d'après eux, ils sont convaincus que ça renforce le système immunitaire et ça nous garde contre la maladie. Alors nous avons en ligne professeur Gauthier Moussengue, sociologue. Bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Professeur, il a été constaté une hausse de la consommation des boissons alcoolisées pendant la période des confinements parce que les gens pensaient que bon, l'alcool permet de chasser la maladie. Et quel est votre avis là-dessus?
Bon, à ma connaissance, nous avons des médecins, nous avons des pharmaciens qui étudient les remèdes contre les différentes maladies, mais aucun médecin, aucun pharmacien ne nous a dit que l'alcool guérit contre le coronavirus. En tout cas, ça, moi, je n'ai pas lu. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Au contraire, il y a d'autres recommandations. Par exemple, de l'eau chaude. Par exemple, c'est de suite, mais pas. On n'a jamais parlé de l'alcool qui guérit le coronavirus ou qui tue les microbes de coronavirus. Sinon, en Europe, en tout cas, il y aurait moins de cas de décès. Moi, je n'ai jamais appris ça, je ne connais rien sur ça.
Mais d'après vous, quelles sont les raisons qui font que la consommation des boissons alcoolisées a fortement augmenté pendant le confinement?
Monsieur le journaliste, vous devez savoir d'abord que chez nous, depuis un certain temps, on consomme beaucoup de boissons alcoolisées, de fortement alcoolisées, comme on appelle ça les ododo et... Pour la
plupart,
qui consomment ainsi de suite. La majorité qui consomme ça, ce sont les gens ce sont les moins instruits. Et ce qui est regrettable parce que ces gens-là ne mangent pas bien. Ces gens qui consomment ces alcools-là ne mangent pas bien.
des fois, ils mangent à jeûne. Plutôt, ils consomment ça à jeûne. C'est ce qui est dangereux contre, pour la santé.
Et il semble que c'est beaucoup plus des jeunes gens qui prennent aujourd'hui les boissons fortement alcoolisées.
Oui, les jeunes gens, la jeunesse, tout ça, c'est lié à la pauvreté parce que les gens ne sont pas informés. Ils montent certaines idées pour expliquer la consommation pour justifier la consommation de cet alcool, alors que ce n'est pas fondé. Ils n'ont jamais étudié ces alcools-là. On ne connaît même pas la teneur, et ainsi de suite. Ils consomment comme ça d'une manière désordonnée. Mais ce qui est dangereux, c'est parce qu'ils consomment ça à jeûne. La plupart de ces gens-là, quand vous les voyez, ils sont maigres, ils sont maigres, ils sont vraiment maigres. Vous sentez que la santé n'est pas bonne et certains meurent facilement comme ça à cause de ces désordres-là dans la consommation d'alcool. Mais ce qui est regrettable, c'est parce qu'à ma connaissance, il y a eu un ministre qui avait interdit les odos. On avait même interdit la fabrication des odos. À ma connaissance, ici à Kinshasa, il y avait même un système de contrôle par rapport à ça, mais à un moment donné, on a abandonné, on ne contrôle plus. Apparemment, on importe ou on fabrique encore ces alcools-là, alors que le gouvernement est là. C'est le gouvernement qui doit travailler sur ça. Dans certains pays, ces histoires-là n'entrent pas. Même les fabricants de ces boissons-là, ici à Kinshasa, ils ne le font pas chez eux. Ils ne le font pas chez eux. Il y a un laisser-aller, un laisser-faire ici. Il n'y a pas de contrôle. Ce qui fait que ces gens-là trouvent mieux de faire ça ici parce qu'il y a de bons consommateurs par rapport à ça. Donc les gens ne sont pas instruits, les gens ne sont pas informés. Et les gens sont sacrifiés parce que le gouvernement ne s'en occupe pas. On laisse faire. Tous ces gens-là se sentent trop libres, très à l'aise ici, alors qu'ils ne peuvent pas le faire dans leur pays. Ils viennent fabriquer des boissons qui ne sont pas propres à la santé. Et maintenant, c'est une façon de tuer les gens, une façon de tuer la jeunesse. Et vous voyez, avec la crise ici, beaucoup de gens se défoulent par ça, parce que quand ils prennent ça, ils deviennent ivres, ils ne pensent plus à rien, ils ne se soucient plus de rien. Une façon pour lui d'être à l'aise, il préfère prendre ça. Alors que ça nuit à la santé parce qu'il mange mal, il prend un gène et ça détruit les intestins, le foie, ainsi de suite. Ça pose trop de problèmes. Par après, quand il mourra, on dit non, on l'a ensorcelé. On va chercher un sorcier. Alors que c'est lui-même qui est le sorcier. Son papa avait dit ceci avant de mourir, ou bien il a envoyé ici, il avait refusé. Voilà, c'est lui qui l'a ensorcelé. Alors que c'est lui-même qui s'est fait ensorceler, c'est lui-même qui s'est fait tuer en consommant des boissons très très fortes comme ça, et puis sans manger.
Voilà.
C'est très dangereux. Donc, en principe, c'est le gouvernement. Le gouvernement doit contrôler l'application de ces décisions. On avait interdit la fabrication de ces alcools-là dans notre pays. On doit contrôler et sanctionner. C'est ça. Parce que les gens meurent facilement, donc ce n'est pas bon.
Bien. Et de plus en plus, les jeunes gens font des mélanges, des cocktails d'aguené mélangés avec du whisky. Le whisky vendu dans des petits sachets, les pastis et le reste là. Mais c'est au quotidien, c'est au-dessus de tout le monde que ces jeunes gens consomment ces boissons fortement alcoolisées.
Oui, ces boissons sont vendues en plein air. Tout le monde le voit. Les policiers voient ça. Tout le monde voit ça. C'est vendu en plein air. Tout le monde le voit. Les officiels voient ça. Et c'est fabriqué aussi ici, à Kingabwa. C'est fabriqué à Kingabwa. Tout le monde sait d'où viennent ces boissons-là. Et le ministre de la Santé sait que ces boissons-là ne sont pas propres à la consommation. Mais le gouvernement laisse faire. Les policiers laissent faire. On devait contrôler ça. Contrôler et sanctionner. Vous verrez que si on contrôle et qu'on sanctionne, il ne faut pas seulement contrôler le lieu de vente. Il faut aller au niveau de la fabrication et interdire même l'importation si ça venait de l'importation. On doit interdire, on doit bien contrôler ça. C'est parce qu'on ne contrôle rien. On laisse faire. Et maintenant, ça a une répercussion vraiment très, très dangereuse au niveau de la population. Les jeunes gens ne sont pas informés. Alors, ils cherchent des explications pour justifier ça. Donc, tout ce qu'ils montrent là, ce sont des scénarios pour dire non, voilà, ça tue contre le coronavirus. Qui a dit ça? Quel est le médecin? Quel est le chercheur qui a dit ça? Sinon, on devait donner des boissons fortement alcoolisées, surtout au niveau de l'Europe, où la prévalence est très, très élevée de coronavirus. Et il y a beaucoup de cas de décès là-bas. Les gens prendraient ça. Mais on n'a jamais conseillé aux gens de prendre ça. Les médecins n'en parlent pas, les chercheurs n'en parlent pas. Donc, ce n'est pas ces consommateurs-là qui doivent le dire. Non, ils n'ont même pas une longue vie. Et regardez même leur apparence. L'apparence de leur corps.
Oui.
Ils sont chétifs.
Ils sont pas en bonne santé. Ils sont pas en bonne santé.
Oui, ils sont chétifs. Apparemment, ils sont vraiment faméliques, chétifs. Ils mangent très mal. On ne peut pas consommer ces histoires-là quand on n'a pas mangé, parce que ça brûle. Mais nous, on voit certains cas de jeunes gens qui vomissent du sang. Donc après avoir consommé ça, ils vomissent du sang et ils crèvent directement. Ils partent, ils meurent.
Et il y a d'autres, qui entrent en coma pendant plusieurs jours.
Oui, oui. Mais l'État voit ça, l'État fait ça. Le gouverneur voit ça, le gouverneur fait ça. La police voit ça. Il y a déjà une mesure prise, à ma connaissance. On a interdit ça. Et on doit maintenant contrôler si ça continue, si la fabrication, surtout au niveau de la fabrication et importation. On doit interdire ça, sanctionner sévèrement ceux qui les fabriquent ou ceux qui les importent de telles boissons. On doit les sanctionner sévèrement. Mais il y a un laisser-aller, un laisser-faire.
Voilà.
La population est sacrifiée.
Donc on peut dire que les consommateurs de ces lotoco sont très, très exposés à la maladie.
Très exposés, mais d'abord par apparence, quand vous les voyez, est-ce qu'il peut faire un travail sérieux? Non. Il ne peut même pas réfléchir. Il ne peut même pas faire un travail. Parce que il ne plie dans son état normal. Et ils sont vraiment faméliques. Ils sont vraiment faméliques. Très malingres. Très malingres. Ils ne peuvent pas travailler.
Ils ne peuvent pas travailler.
Ça, parce que ça nuit à la santé. Il ne peut pas avoir un corps parce que il nuit à sa santé. Ça crée des maladies sérieuses. Sérieuse plutôt.
Bien.
Il meurt facilement, il meurt. Ils le savent bien. Nombreux vomissent du sang. Ils vomissent du sang, ils meurent. Ils le savent bien.
Mais professeur, apparemment.
Ils prennent ça à gêne.
Apparemment, ils sont dans un état d'inconscience et ils s'en foutent de tout ce qui peut arriver.
Bon, c'est la crise. C'est une façon de se consoler de la crise. Beaucoup de ces gens-là ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'argent, et surtout que c'est moins cher. 100 francs, ils ont ça. 100 francs, 500 francs, 1000 francs, ils ont ça, et puis ils s'enivrent facilement avec 1000 francs, ou avec 500 francs seulement, ils s'enivrent facilement, surtout qu'ils prennent ça à gêne. Alors, à l'état d'ivresse, là, ils se défoulent bien, vous les voyez derrière. Sourire, il fait que des sourires parce qu'il est ivre. Donc, alors c'est une façon pour lui de se consoler de la crise, de la souffrance.
Une façon d'échapper, oui. De fuir la crise, la souffrance.
Oui, et des responsabilités aussi. Une façon de fuir surtout les responsabilités. Parce qu'il y a même des papas qui prennent ça. À la maison, il n'a rien donné. Les enfants restent affamés. Et la femme, n'en parlons pas. Et lui, il a trouvé 1000 francs. Il a demandé, on lui a donné 1000 francs. Il va prendre ça et c'est tout. Il se console de ça. Il est bien distrait de ça. Et c'est une fuite de responsabilité. Et les enfants meurent de faim. Les enfants, bon, papa, Fanny Naye, Kuna, Alali Naye.
Bien, on va accueillir deux auditeurs, Richard de Kananga et Valérie de Kisangani. Richard, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour, je remercie tout le monde qui est au plateau.
Quelle est la question, votre question par rapport à la consommation de l'alcool?
Oui, moi je voulais juste dire qu'il faut que le gouvernement s'engage à inculquer de bonnes manières aux vendeurs de l'alcool. Car ici à Kananga, nous assistons à un phénomène de chichampa.
C'est un facteur qui risque de transmettre rapidement la COVID-19. Prions que cela n'arrive pas ici. Les gens entourent la même table sans masque, sans cache-nez, sans lavage des mains, donc aucune mesure de prévention. Et les mineurs et les majeurs s'entourent autour d'une même table et consomment l'alcool. Donc là, il faut que le gouvernement provincial s'engage pour inculquer de bonnes manières aux vendeurs, afin qu'il y ait la distanciation physique et sociale, qu'il y ait aussi des mesures de prévention de cette maladie.
Là-bas, Kananga, ils prennent seulement les tchichampas ou bien ils font aussi des mélanges extraordinaires?
Ici, il y a des chichampas, il y a aussi des produits naturels qu'on a déjà à l'intérieur des chichampas.
Pour renforcer les effets?
Oui, pour renforcer les effets, et surtout, ils disent qu'il faut mieux consommer pour avoir un peu de la force, que je peux dire, sexuelle. Donc, il y a des produits naturels qu'on met dedans pour que les gens prennent, et pour qu'ils deviennent un peu fort au lit. C'est ça.
D'accord. Pour la performance sexuelle, merci d'avoir appelé Richard de Kananga. Valérie, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour, bonjour la radio Kapi, je corrige, je suis à Lubumbashi.
Katanga. D'accord, vous êtes plutôt à Lubumbashi, allez-y.
Voilà, je disais, la conception répandue chez la plupart des consommateurs de l'alcool frélaté est que cet alcool ne permet pas la survie de virus ou de microbes. D'où, dans la plupart des cas, vous trouverez que ce consommateur de cet alcool, il se font confiance en partageant un même verre, alors avec tous les risques qui se présentent. Moi, je trouve, ben, au départ, d'abord, la consommation en soi n'est pas mauvaise. Du fait que, dès qu'elle est régulée, elle n'est pas mauvaise, mais elle devient mauvaise si les conditions dans lesquelles elle est prise et que le respect de la dose n'est pas respecté. En fait, j'ai essayé de m'entretenir avec quelques jeunes de Lubumbashi qui consomment ce genre d'alcool. Ils avancent d'ailleurs cette idée qui est assez fluide. Pour eux, l'alcool frélaté, communément appelé ici au Katanga le Kabondo, est un remède pour lutter contre la COVID. Vous trouverez que c'est déjà quelque chose, une idée avec une telle perception. Donc il y a de quoi se demander sur la survie de ces jeunes en cas de contamination d'un membre de la bande ou de leur groupe. D'où, ici, la responsabilité revient au gouvernement qui doit mettre sur pied toutes les batteries afin que le contrôle soit régulier dans le coin où
le Kabondo est servi.
Oui. Alors, il ne suffit pas de faire communiquer à la radio, il y a des mesures, barrières, etc.
Mais il faut des descentes sur terrain.
Un suivi de près serait nécessaire afin de lutter contre la contamination sur cette population qui est en général sont constituées de jeunes non instruits ou insuffisamment instruits. La plupart de ceux qui consomment bien sûr cet alcool, ce sont les jeunes qui sont soit non instruits, soit insuffisamment instruits, soit les jeunes désœuvrés, soit les jeunes de la rue, etc. Mais dans la population en général, je trouve que une surveillance à tous les niveaux est nécessaire pour lutter contre la propagation de ce virus dans ces cadres. Voilà.
D'accord. Merci, Valérie de Lubumbashi. Professeur Gauthier Moussenge, vous avez la parole.
Oui, j'ai déjà été à Kananga. Je sais comment on consomme les chichampas.
Le chichampas.
je déconseille aux gens. J'ai vu comment les gens consomment les chichampas. Je ne suis pas d'accord avec cette consommation de chichampas. Parce que ce chichampa-là, on n'a pas étudié pour savoir, pour distinguer le degré d'alcool, le niveau d'alcool que le corps peut supporter. Donc, c'est une fabrication qui est artisanale. On ne connaît pas la dose. Les gens consomment comme ça. Surtout que ça coûte moins cher. Parce que ce qui amène les gens surtout à consommer, c'est parce que ça coûte moins cher et on s'enivre vite, facilement.
On s'enivre à moins cher.
Oui, on s'enivre à moins cher. Alors que la bière, par exemple, qui est donc le degré d'alcool est bien connu, tout ça, on peut bien comprendre même à quel niveau on peut bien supporter l'alcool. Mais bon, la bière coûte cher, c'est ça le problème. Et les petits champas, tout ça, ça ne coûte pas vraiment grand-chose.
Alors, c'est ce qui fait que les gens consomment ça, préfèrent consommer ça vite, s'enivrer, et puis se sentir heureux parce qu'on est à l'état d'ivresse. Ce sont toujours des gens qui sont irresponsables, qui font une façon de fuir sa responsabilité. Donc, ce n'est pas bien, nous, de conseiller aux gens de consommer de telles boissons, parce que c'est toxique à la santé. C'est vraiment toxique. C'est le degré de toxicité, d'ailleurs, on ne connaît même pas. Pour preuve, vous ne verrez pas quelqu'un qui consomme ça, surtout les grands consommateurs de ces alcools-là. Vous ne le verrez pas à une bonne santé apparente, non.
Professeur Gauthier, non. Richard dit que c'est les consommateurs de ces boissons sont convaincus que cela augmente la performance sexuelle.
Bon, j'ai entendu le compatriote là, il a dit qu'ils ajoutent
certains produits,
les excitants, ouais. Tout ça, les fortifiants pour avoir des performances sexuelles. Bon, mais ce n'est pas approuvé, hein. Sinon les gens le feraient. Les pharmaciens, les médecins ne nous ont jamais dit ça. Sinon, bon, nous savons qu'il y a des racines. Il y a des racines qui sont des excitants, comme ça. Ce sont des fortifiants, il y en a, naturels, l'état naturel. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça dans les chichampas pour avoir des effets au corps, non. Vous pouvez consommer ça comme ça. Comme c'est naturel, souvent, ce n'est pas mal, parce que c'est à l'état naturel. Mais des mélanges, là, ce sont des mélanges qui ne sont pas contrôlés. C'est dangereux, parce qu'on ne connaît pas. Ce sont les gens qui imaginent comme ça, mélange en désordre. On ne sait pas ce que ça peut produire dans le corps. Alors, nous déconseillons vraiment les gens de consommer des choses comme ça, qui ne sont pas contrôlées, qui ne sont pas vérifiées. Et puis, les gens doivent éviter d'inventer, de chercher toujours à justifier ça spontanément comme ça pour se consoler. Non, ce n'est pas bon. Ils amènent facilement, ils attirent les autres d'en consommer. Non, ce n'est pas bon.
Professeur Valérie de Lubumbashi nous dit que la consommation de ces boissons frélatées n'est pas du tout mauvaise, mais c'est plutôt l'excès qui n'est pas bon.
Non, la consommation est mauvaise parce que on n'a pas étudié ça. Les chercheurs ne savent pas. Enfin, on n'a pas étudié ça. On ne sait pas est-ce qu'il y a une toxicité, est-ce qu'il y a un problème, est-ce que à quel niveau ça peut devenir toxique, tout ça, ce n'est pas calculé, ce n'est pas étudié, ce n'est pas justifié. Alors c'est ça qui fait peur, c'est ça qui fait peur. D'autres boissons, c'est bien indiqué, c'est autant d'alcool, autant de sel, les pourcentages sont bien indiqués, et enfin vous avez ceci, cela. Donc, et puis ça doit être contrôlé. Même l'OCC ne contrôle pas ça. Ça échappe l'OCC. Ça pose des problèmes. On ne peut pas consommer ce qui n'est pas contrôlé. On doit contrôler tout ce que nous devons mettre dans notre bouche doit être contrôlé. L'OCC ne contrôle pas ça. Ce n'est pas dangereux. Alors que l'OCC ne contrôle pas ça. On ne peut pas, par de simples déclarations comme ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas dangereux. Non. C'est dangereux parce que ce n'est pas contrôlé. Nous ne connaissons rien de ça.
Voilà. Et généralement, dans quelles conditions ces gens prennent ces liqueurs fortes dans l'Inganda? Il semble que ce sont des endroits qui ne sont pas très propres et les gens sont autour de la table, ils parlent à haute voix, ils se partagent les gobelets ou les verres sans respect de l'hygiène.
Oui, à ce moment-là, c'est la faute du gouvernement. Le gouvernement doit contrôler, surtout à ce moment de coronavirus. J'ai entendu mon compatriote de Kananga l'a dit d'ailleurs. Il a dit que les gens sont côte à côte, les gens sont serrés, sans masque, font des bruits, ainsi de suite. C'est dangereux, ce n'est pas bon. L'État doit contrôler. La police est là pour ça. La police doit passer dans des buvettes, là, dans toutes les différentes buvettes. On doit contrôler et on doit donner des instructions. Tous les services, il y a des services de l'État qui sont pour ça. le service d'hygiène, si ça existe encore, ces gens-là, on doit instruire aux gestionnaires des buvettes de veiller à ce que leurs clients soient sécurisés. Donc, les gestionnaires professeur, de buvettes doivent sécuriser leurs clients.
Professeur
Ils doivent contrôler.
Professeur Gauthier, après la levée de l'état d'urgence, vous êtes sociologue, sûrement vous avez remarqué ce qui se passe dans les bars. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les gens prennent la boisson tout en respectant les gestes barrières?
En tout cas, je doute fort. Vous savez, monsieur le journaliste, ce qui régule notre comportement, c'est le contrôle et la sanction. Si je sais bien que si je fais ceci, cela, même si c'est interdit, si je fais ça, personne ne me verra, plutôt, on ne me fera rien. Il faut être Jésus pour bien respecter ça. Donc, c'est le contrôle. Mais quand on sait bien que si je fais ça, on va m'arrêter et on va me sanctionner, vous verrez que les gens ne vont plus faire ça. Alors, il faut qu'il y ait un contrôle et sanction. On doit contrôler et sanctionner. Vous verrez que il n'y aura plus de désordre, les gens vont bien se contrôler, les gestionnaires des buvettes et des bars, ainsi de suite, vont bien gérer les clients. On doit contrôler tout ça.
Voilà, s'il n'y a pas de contrôle, les gens, ils vont faire ce qui leur semble bon.
Oui, il faut qu'il y ait contrôle et sanction. Contrôle et sanction. Et tout ça, c'est bien prévu par la loi. On ne doit pas inventer la sanction. La sanction est prévue par la loi. Mais quand vous sanctionnez en désordre, à ce moment-là, ça énerve. Donc, on doit appliquer la loi telle qu'elle prévoit.
Voilà, il faut appliquer la loi telle que par rapport à ce qui est prévu.
Bien.
Alors, comme ces jeunes gens sont déjà habitués, leur corps est habitué.